Je crois que nous allons reprendre, si vous voulez bien vous asseoir. Donc je me présente, je suis Sébastien Fath, je suis historien, peut-être un peu sociologue aussi. Je travaille au CNRS depuis 1999. Je me prépare à sortir un livre, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, donc je fais ma publicité dans un mois. Mais je touche aucun copyright dessus, hein, enfin aucun droit d'auteur. C'est une réédition en fait d'un livre paru en 2003 sur les idées reçues sur le protestantisme, sauf que c'est une réédition très augmentée, avec entre autres une nouvelle idée reçue consacrée au thème suivant, les évangéliques sont-ils protestants ? Voilà, parce qu'un... Alors évidemment, on a une petite idée de la réponse, mais pour le grand public, bon, c'est pas forcément toujours aussi évident. Donc d'où ce chapitre supplémentaire parmi d'autres, et l'ouvrage sortira dans un mois. Alors je vous remercie de m'avoir invité pour cette occasion. Je vous présente mes excuses de n'avoir pas été là ce matin. J'aurais beaucoup apprécié d'assister aux exposés, mais on me donnera les textes, hein, j'y compte. Voilà. Et donc pour cet après-midi, on m'a demandé de parler sur le rapport à la vérité de l'historien. Alors j'attaque sans plus tarder mon sujet, sachant que je réserverai un certain nombre d'aspects, un certain nombre d'angles que j'ai choisi de ne pas traiter pour la table ronde. Alors de par son métier, l'historien, naturellement, vise à rendre compte du passé, non pas seulement à rendre compte du passé, mais à l'expliquer rationnellement, au travers d'une mise en lumière de causalité interne puisée dans les sources étudiées. Et je le précise tout de suite, même si évidemment derrière il y a un débat théorique qu'on pourra discuter peut-être dans le cadre de la table ronde, ces causalités que voit l'historien ne sont pas simplement là parce que l'historien décide de les voir. Et là, je m'inscris d'emblée hein, en porte-à-faux par rapport à ce qu'on appelle le linguistic turn des années 70, qui consiste dans ces extrêmes à dire que finalement tout est question de point de vue. Eh bien non, tout n'est pas question de point de vue. Ces causalités que l'historien est amené à délimiter, à expliquer, elles jouent intrinsèquement, aussi sûrement que le krach boursier de 1929 entraîne la faillite des banques, par exemple, mais on pourrait donner de multiples exemples comparables. De la même manière qu'un mécanicien qui étudie de près un moteur parviendra peu à peu à découvrir comment il fonctionne, l'historien, face aux matériaux dont il dispose, à commencer par les sources écrites de divers types, c'est vraiment la matière première de l'historien, c'est la source écrite, qui peut éventuellement compléter par d'autres supports, par des supports audiovisuels en particulier, mais c'est quand même avant tout l'écrit hein, qui est la matière première de l'historien, eh bien, le spécialiste, le chercheur, essaie donc de comprendre, à partir de ces sources, comment les sociétés fonctionnent. Tout comme un mécanicien voudra comprendre comment le moteur fonctionne, eh bien, l'historien, de la même manière, avec ses sources, il cherche à voir comment ça marche à partir de données vérifiables. C'est-à-dire qu'un collègue, à qui on va présenter les mêmes sources, les mêmes dossiers, eh bien, s'il fait son travail à partir de la méthodologie de l'historien, eh bien, il arrivera à peu près au même type de conclusion. Alors évidemment, tout cela porte sur des séquences temporelles sélectionnées pour leur cohérence interne, dont il s'agit d'élucider, au travers du fouillis des événements, des dynamiques internes qui permettent donc de comprendre ce qui a pu se passer, et éventuellement aussi de comprendre pourquoi les choses se sont passées comme cela et pas autrement. Alors vous l'avez compris, ce régime de vérité est basé sur l'empirie, et je revendique très fortement cet aspect empiriste hein, du métier d'historien. Je crois que c'est vraiment important de rappeler qu'on ne fait pas de l'histoire simplement comme ça à partir d'un certain nombre de représentations, de sources de seconde main, mais c'est vraiment les mains dans le cambouis, c'est-à-dire dans les sources primaires qu'on va recouper entre elles, hein, que petit à petit, au travers de cette méthodologie d'enquête et d'administration de la preuve, on arrive à obtenir des résultats. Alors, il y a un présupposé épistémologique qui souligne que l'histoire, évidemment, n'est pas absurde, n'est pas incohérente. Elle peut s'expliquer rationnellement à partir de sources vérifiables. Mais ce présupposé épistémologique, on n'est pas nécessairement obligé de le partager. Mais ça, on y reviendra peut-être en table ronde. Mais sur ce point précis, Je crois que le fait d'avoir, par exemple, des convictions chrétiennes, c'est plutôt un soutien à la pratique du métier d'historien. Parce que si on pratique ce métier sans partir du principe que les événements que l'on étudie ont une forme de cohérence, hein, qu'il y a un certain nombre de chaînes causales intrinsèques, si on ne part pas sur ce principe-là, ça me paraît assez difficile de faire correctement son travail d'historien. Mais je ferme la parenthèse, on y reviendra peut-être en cours de la table ronde. Alors la question qui se pose à partir de ces présupposés que je viens d'expliciter en introduction, c'est de savoir comment le rapport à la vérité se renégocie-t-il éventuellement en face d'autres modes de compréhension du passé. La foi chrétienne en particulier met-elle au défi l'épistémologie de l'historien ? Met-elle au défi son rapport à la vérité ? La conviction que Dieu est vivant, qu'il agit dans l'histoire, vient-elle transformer la pratique de l'historien ? Alors pour essayer de répondre à cette question, je vous propose une approche en trois étapes autour d'exemples qui seront empruntés à l'histoire du christianisme. Alors première étape, premier coup de projecteur, histoire et foi, trois textes pour poser le problème. Donc je vous propose un petit peu pour débroussailler le sujet, trois textes hein, sur lesquels nous réagirons. Alors le premier texte est en fait à double entrée, c'est d'abord un texte de Michel de Certeau, tiré de l'écriture de l'histoire, publié chez Gallimard en 1975, et puis la manière dont Claude Langlois, l'historien du catholicisme Claude Langlois, longtemps directeur d'études à l'École pratique des hautes études, réagit hein, par rapport à l'analyse de Michel de Certeau. Alors je commence par vous lire le texte de Michel de Certeau. S'agissant d'histoire religieuse, n'oublions point l'essentiel. L'aspect religieux de l'histoire semble aujourd'hui passer de l'objet historique au sujet historien. L'objet religieux, par exemple les prêtres, la pratique sacramentelle, la spiritualité, étant désormais traité en fonction d'une société, selon les critères communs à tous aujourd'hui, et non plus religieux, l'historien croyant ne peut plus que glisser subrepticement des convictions subjectives dans son étude scientifique. Ces motivations interviennent dans le choix de l'objet, relatif à un intérêt religieux, ou dans la finalité de l'étude, en fonction des préoccupations présentes, par exemple la déchristianisation et ses origines, la réalité d'un christianisme populaire, etc., elles encadrent comme un avant et un après le travail historique, sans avoir de rapport intrinsèque avec lui. Sans avoir de rapport intrinsèque avec lui. Donc ça, c'est le texte lui-même de Michel de Certeau, publié en 1975. Et voici maintenant le commentaire qu'en fait Claude Langlois, 13 ans plus tard. Ce texte dense de Michel de Certeau mériterait un long commentaire. Retenons ce qui paraît évident à son auteur, la dissociation totale entre l'historien croyant et l'historiographie laïcisée, et donc en conséquence l'extériorité de la conviction individuelle par rapport à la pratique scientifique commune à tous les historiens. À vrai dire, poursuit Claude Langlois, cette dissociation qui reprend significativement la distinction établie dans un autre contexte au lendemain de la Révolution par Portalis entre la privatisation des croyances et la laïcisation de l'État, peut apparaître comme l'expression d'une éthique de la recherche partagée dans les années 70 par bon nombre d'historiens. Mais était-elle aussi évidente avant ? A-t-elle conservé sa force après ? Et de plus, ne traduit-elle pas davantage un souhait qu'une constatation, poursuit Claude Langlois ? On peut en effet se demander si les convictions privées n'interviennent pas, même de manière détournée, à l'intérieur de la pratique scientifique, dans le choix des modèles d'interprétation, et plus encore dans les approches plus synthétiques où les appréciations des grandes masses relèvent nécessairement d'une décision personnelle. Fin de citation. Alors nous voyons exposer ici la question du rapport à l'objet d'étude, l'objet religieux, avec deux attitudes différentes. La première, qui est celle de Michel de Certeau, consiste à dire qu'il y a certes eu des difficultés dans le passé, dans le rapport à l'objet, pour des chercheurs susceptibles d'être croyants, d'être chrétiens, mais cette difficulté pour lui appartient assez largement au passé. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon Michel de Certeau, et il n'est pas le seul à le penser, la méthode appliquée à l'objet religieux est la même que celle que l'on applique à tout objet social. Voilà, il y a une méthodologie objectivée, qu'on enseigne dans les facultés, et celle-là, eh bien, qu'on soit chrétien ou pas, que l'on soit croyant ou pas, eh bien, on applique la même méthode, les critères sont désormais communs. Si la subjectivité du chercheur intervient, c'est moins, d'après de Certeau, dans le travail historique lui-même que dans ce qui le précède et ce qui le suit. Si l'on va bien dans le sens de ce point de vue, la question méthodologique du rapport à l'objet, du rapport à la vérité, à certains égards aussi, ne devrait plus poser de problème et un heureux consensus devrait régner. La vérité en histoire serait une. Mais ce n'est pas si simple. La seconde attitude, qui est celle de Claude Langlois, qui reprend le texte de Michel de Certeau, qui le critique, cette seconde attitude prend le contre-pied de l'optimisme initial. Dans son article, Claude Langlois, donc un article publié dans les archives de sciences sociales des religions, Claude Langlois prend bien soin de distinguer souhait et réalité et formule de sérieux doutes sur l'extériorité de la conviction personnelle par rapport à la pratique scientifique. De manière plus ou moins détournée, dit-il, les convictions privées risquent toujours, en histoire religieuse aujourd'hui, d'interférer dans l'analyse. Et le chercheur, ce faisant, doit être particulièrement conscient de la dérive possible et se montrer prudent. Alors, en arrêtant là, pour le moment, la lecture de ce texte de Claude Langlois, et nous la reprendrons plus loin, un rapide coup d'œil sur deux autres textes permet de voir que la prudence de Claude Langlois est sans doute justifiée. Alors, l'extrait que je vais maintenant vous lire vient d'un pasteur, baptiste, Georges Rousseau, dans un livre bien connu des spécialistes de l'histoire du baptisme, c'est l'histoire des églises baptistes dans le monde. C'est un texte qui se présente comme un texte d'histoire, et pas seulement dans le titre, qui vise donc une information didactique sur le passé dans le monde des églises baptistes. Alors je vous cite ce texte et puis ensuite je le commenterai. Quelqu'un a dit que si le XIXe siècle a été le siècle des missions chrétiennes, le XXe siècle aura été celui de l'histoire chrétienne, de l'Église chrétienne, pardon. Au cours de l'histoire, aucune doctrine n'a été plus malmenée que celle de l'Église. Une fausse notion d'Église entraîne automatiquement une fausse notion du salut. Faire de l'Église un moyen de salut, ou l'identifier avec le royaume de Dieu, c'est ravir au Christ, éternel fondement de l'Église, sa puissance salvatrice et sa seigneurie. L'Église chrétienne est sur la terre le témoin du Christ, le signe annonciateur du royaume de Dieu. Elle est basée sur la foi. En cette fin du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, poursuit Georges Rousseau, quatre siècles après la Réforme, il conviendrait que les baptistes, qu'on a parfois appelés les protestants d'entre les protestants, fussent à même de conduire à son terme normal l'œuvre amorcée par les réformateurs. Cela, en donnant au monde la meilleure interprétation spirituelle du christianisme, par le moyen d'églises locales authentiquement inspirées par l'Esprit du Christ, dans la personne de chacun de leurs membres, comme dans l'expression de leur vie collective. Le nom de baptiste, après celui d'anabaptiste, nous a été donné, poursuit toujours l'auteur, par des gens qui nous reprochaient notre étroitesse quand nous refusions de baptiser des petits-enfants. Depuis quelques années, les meilleurs historiens et les meilleurs théologiens au sein du protestantisme nous donnent raison. En établissant la légitimité, conformément aux données de la révélation chrétienne et de l'histoire du christianisme primitif, de notre position à ce sujet. En agissant ainsi, en faisant du baptême des nés de nouveau et non des nouveau-nés le moyen d'entrer dans l'Église, nous empêchons que soit dénaturée la notion de foi et la notion d'Église, nous empêchons que le royaume de Dieu obtienne droit de naturalisation au sein de l'humanité pécheresse, sans que cette humanité et ses membres composants aient eu à se repentir et à changer de vie en passant par la conversion. J'ai presque fini. Telle est la contribution essentielle des baptistes à l'œuvre du royaume de Dieu. Fin de citation. Alors nous avons ici un bel exemple, je crois, d'un type de littérature que nous connaissons peut-être assez bien, dont nous avons parfois des exemplaires autour de nous, dans les églises locales. Ce qu'on peut appeler l'histoire sainte, qui est une vocation, une vogue ancienne et prolifique, une vocation aussi d'ailleurs, qui a touché et touche encore tous les groupes religieux et notamment les églises évangéliques. Histoire sainte, c'est-à-dire récit historique fait du point de vue du groupe, en vue d'affirmer sa légitimité sur la base de raisonnements qui empruntent moins à la critique historique de type universitaire qu'à l'apologétique. Au régime de vérité fondé sur l'examen des faits s'ajoute le régime de vérité du croyant qui sait, je dirais presque a priori, que son option est conforme, croit-il, au plan divin. Alors plusieurs indices ici permettent de situer ce texte dans cette filiation de l'histoire sainte. Alors on peut tout d'abord remarquer, d'un point de vue extérieur au texte lui-même, la provenance du document. C'est un document qui est publié par la Société de publication baptiste, qui concerne l'histoire baptiste, et qui laisse à penser que le groupe religieux qui s'autopublie ne va pas le faire dans une perspective excessivement critique. Bon, même si, après, ça peut arriver. On peut ensuite remarquer, toujours du point de vue extérieur au texte, que l'auteur est pasteur baptiste revendiqué, ce qui peut laisser supposer un engagement confessionnel explicite dans le propos tenu, même si ça n'est pas obligatoire non plus. Tout cela n'est pas suffisant pour parler d'histoire sainte. Regardons le texte lui-même. Alors, dans le texte lui-même, nous avons un « nous », qui inclut le lecteur dans une théodicée, je dirais, une théodicée baptiste, en l'occurrence. L'auteur se définit comme acteur de l'histoire qu'il décrit et englobe aussi ses lecteurs. Il est à la fois juge et partie, d'une certaine façon. Il revendique une perspective, à certains égards, subjective du texte, articulée à un sentiment identitaire exacerbé. Il y a « nous » et il y a « les autres ». Par ailleurs, bon, outre la faiblesse des références mentionnées, au début de la citation, quelqu'un a dit que, bon, très bien, c'était qui, quand, comment, dans quel texte, bon, on aimerait bien savoir. Et puis, les meilleurs historiens ont dit que, les meilleurs théologiens nous donnent raison, bon, d'accord, lesquels, quand, comment, où, bon, même chose. Alors, en dehors de cet aspect-là, qui n'est pas négligeable, on remarque une forte tonalité ecclésiologique, théologique, qui n'a que peu à voir avec l'analyse historique. Il y a ici complète imbrication du théologique, de l'ecclésiologique, de l'historique, ce qui est une des caractéristiques fondamentales de l'histoire sainte. L'ecclésiologie protestante de type congrégationaliste s'y trouve ici fermement définie et revendiquée. Pas de présentation objectivée de l'Église en tant que telle que l'historien pourrait essayer de la définir. Nulle exposition non plus des différentes thèses en présence en matière d'ecclésiologie. C'est une seule vision confessionnelle qui est ici défendue. Alors, d'autre part, on note dans ce texte aussi une conception non laïque de l'histoire, comme discipline et comme champ. Loin d'être une discipline scientifique qui se situe sur le plan de l'analyse, de l'explication, dans un effort de neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'on met à distance les valeurs en tant que personne qu'on engage dans son travail, l'histoire est perçue comme un champ de controverse qui distribue des bons et des mauvais points. L'histoire est convoquée pour prendre parti dans tel ou tel camp. Cette utilisation de l'histoire, qui est très affirmée ici, est une des autres caractéristiques majeures de ce qu'on appelle l'histoire sainte, dont les finalités sont tout autres que celles de la recherche en histoire telle qu'on l'enseigne à l'université. Alors, ce texte nous montre ainsi un bon exemple de dérive possible qui n'épargne aucun groupe religieux. L'histoire comme manière de manier l'encensoir, à certains égards, même si la métaphore ne plairait sans doute pas à un baptiste. Jouant sur une confusion fréquente en histoire religieuse entre ecclésiologie, apologétique et études du passé. Alors on reviendra d'une façon plus globale sur ces dérapages plus loin. Dans ce texte, ils étaient particulièrement nets, compte tenu des spécificités, des conditions même de publication, visant d'abord un petit groupe confessionnel bien précis, le petit groupe baptiste, 5000 fidèles en France à la parution du livre. Bon. Mais de tels dérapages se retrouvent sous une forme ou sous une autre dans d'autres textes plus récents et dans la sphère d'autres églises. On le constate en regardant le texte suivant, extrait d'un « Que sais-je » consacré aux religions, signé par le cardinal Poupart. Après une plume protestante sur l'Église, une plume catholique. Au moment où le cardinal Paul Poupart rédige ce texte, dans une perspective naturellement voulue comme laïque, hein, nous sommes dans la collection Que sais-je, c'est pas une collection vouée à un public confessionnel, en principe. Le cardinal Poupart, donc au moment où il rédige ce texte, est président du secrétariat pour les non-croyants et président exécutif du Conseil pontifical pour la culture. Et voici la manière dont il définit l'Église, donc dans ce Que sais-je, que n'importe quel étudiant était susceptible d'acheter, parce que je crois qu'il n'est maintenant plus réédité, et on verra pourquoi. Voilà comment il définissait en 1987, dans l'édition 87, l'Église, dans ce volume Que sais-je. Jésus-Christ est l'origine historique de ce rassemblement organisé de ses disciples, appelés pour la première fois à Antioche chrétien. L'Église est la communion de ceux qui croient au Christ et ont reçu le baptême qui les a visiblement agrégés au Christ. Il constitue, le mot est de saint Paul, son corps vivant, il en est la tête, l'esprit en est l'âme. Ils en sont les membres. Il les fait communier à, la vie, à sa vie et à sa personne en se donnant à eux par les sacrements, signe privilégié et efficace de son amour, dont l'Eucharistie est le mémorial. Pour toutes les générations, Jésus-Christ est la voie, la vérité, la vie. Pour les conduire à sa suite, il a établi le collège des 12 apôtres, avec Pierre pour chef, dont le pape, l'évêque de Rome et le successeur, entouré par les évêques. En charge du peuple de Dieu, ils exercent leur ministère d'enseigner sa parole, les saintes écritures, de le sanctifier, sacrement, et de le gouverner. Les conciles sont l'expression suprême de leur magistère au service de l'Église une, sainte, catholique et apostolique, qui est, selon le mot de Bossuet, Jésus-Christ répandu et communiqué. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comme l'affirme saint Paul, 1 Timothée chapitre 2, verset 4. L'Église est le sacrement du salut à travers les temps. À leur fin, le Seigneur reviendra juger les vivants et les morts et rassembler l'immense peuple de Dieu. Dans son éternité bienheureuse, l'Église sera alors, fin de citation, la Jérusalem céleste. Alors, ce texte est d'une tonalité assez différente de celle de Georges Rousseau. Alors d'abord, on remarque que l'orientation ecclésiologique n'est pas la même. Il n'y a pas de « nous », le discours est objectivé. Rien dans l'extrait que nous venons de lire ne permet a priori de penser que l'auteur parle de son point de vue ou du point de vue de son Église. Quelqu'un qui ne connaîtrait strictement rien au protestantisme et au catholicisme saurait, en lisant Georges Rousseau, qu'il est baptiste, car il s'inclut dans l'objet qu'il étudie, il se place du point de vue du « nous », il annonce la couleur de manière très franche. En revanche, le même lecteur qui parcourt ce texte du cardinal Poupart n'a aucun moyen de se douter que l'auteur est catholique. À moins, évidemment, de savoir déjà un petit peu ce que c'est que le catholicisme, le protestantisme, et j'en passe. On constate ensuite, sur le plan du fond, que l'orientation choisie pour exposer ce que c'est que l'Église dans le christianisme n'est évidemment pas plus exempte de parti pris que le texte cité précédemment. En effet, c'est une présentation limpide de l'ecclésiologie catholique romaine que se livre ici le cardinal Poupart, et ce, dans un ouvrage de la collection Que sais-je, Presse universitaire de France, dont les prétentions scientifiques justifiées s'accommodent en principe très mal de ce type de parti pris confessionnel. Le cardinal Poupart se livre à une présentation unilatérale de ce que Jean-Paul Vihem appellerait, dans son Que sais-je sur la sociologie du protestantisme, le modèle institutionnel rituel où, je cite, « l'Église apparaît comme une bureaucratie sacralisée de salut, c'est-à-dire une institution à la fois humaine et divine ». Et c'est la seule définition de l'Église qui nous est donnée dans ce « Que sais-je ». On découvre ainsi que l'apparente objectivation du discours où le scripteur s'efface de son texte ne constitue en rien une garantie d'un apport scientifique à l'objet étudié, et je dirais d'un régime de vérité à l'abri des captations confessionnelles. À la limite, le texte de Poupart est encore plus redoutable que celui de Rousseau, dans la mesure où Poupart, on l'a dit, avance masqué. Objectivation du discours, dans une publication à caractère reconnu comme scientifique, on n'est pas supposé, en partant de telles bases, se méfier de la perspective choisie, et pourtant, on est bel et bien là dans une perspective tout autant confessionnelle que celle de Georges Rousseau. Alors, dans ces deux textes, et de manière différente, on a remarqué une faiblesse dans le rapport scientifique à l'objet. Dans les deux cas, l'engagement confessionnel, partisan, imprègne le discours, et dès lors, les deux textes ne méritent ni l'un ni l'autre, et pas plus l'un que l'autre, l'appellation de texte d'histoire au sens sciences humaines et sociales du terme. Ce sont des textes qui sont avant tout à vocation militante, des textes engagés, qui ont moins pour but de fournir une information critique et équilibrée du donné socio-historique que de prêcher pour une thèse, pour une doctrine, pour une vérité préconçue, certes tout à fait honorable, certainement, mais enfin, en l'occurrence, ici, l'ecclésiologie protestante ou l'ecclésiologie catholique. Et l'optimisme de Michel de Certeau est donc peut-être un peu à nuancer. Le rapport à l'objet, à la vérité historique, peut toujours parfois poser problème. Alors, je vous propose maintenant, dans un deuxième temps, donc après avoir un petit peu déblayé un certain nombre d'enjeux, maintenant, dans un deuxième temps, je vous propose de lister quelques dérives possibles dans notre rapport à l'objet, dans notre pratique de l'histoire en tant que sciences humaines et sociales. Alors, premier type de danger, l'histoire et la sociologie, lieu d'apologétique. L'histoire et la sociologie, lieu d'apologétique. Premier risque, donc, utiliser l'histoire et la sociologie comme un instrument au service d'une perspective confessionnelle précise. C'est peut-être la dérive la plus facile à repérer. Alors, on l'a rencontré à l'instant, au travers des deux exemples choisis. Alors, elle est récurrente dans la recherche en histoire ou sociologie religieuse. Elle joue indiscutablement pour le catholicisme, qui, en tant que religion majoritaire, jouit d'une position permettant aisément de nombreuses publications, dont le caractère objectivé n'est pas toujours la première qualité. Mais les protestants, du fait de leur statut minoritaire, jouent tout autant sur la corde apologétique. Pour prendre un exemple très célèbre, avec un peu de recul, on peut citer les travaux du pasteur suisse Jean-Henri Merle d'Aubigné. Je vous rappelle ces dates, 1794-1872, à l'époque où il a publié ses œuvres, il a soulevé un certain enthousiasme dans la communauté protestante francophone et même dans la communauté intellectuelle française dans son entier. Alors, il publie une monumentale histoire de la Réformation au XVIe siècle en 5 volumes, mais qui ne dépasse pas le début des années 1530, puis une histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin en 8 volumes, dont 3 volumes posthumes. Gigantesque travail, bien écrit, très, très riche, très, très intéressant, qui suscite des commentaires dithyrambiques, comme celui de Jules Bonnet, cité par André Encrevet dans l'Encyclopédie du protestantisme. Je vous cite ce commentaire publié dans la... Alors, le commentaire lui-même, donc, que cite plus tard André Encrevet, le commentaire lui-même provient du Bulletin pour la Société de l'Histoire du protestantisme français en 1874. De la Tamise au Gange, de l'Australie au Canada, son œuvre est populaire, et le pionnier américain porte avec lui, dans les solitudes inexplorées, comme un cordial tout-puissant, ces deux livres qui se complètent l'un l'autre, la Bible et l'histoire de la Réformation. Alors là, on peut un peu en douter, enfin, d'autant que l'histoire de la Réformation, encore une fois, c'était quand même absolument énorme. Enfin, bon, l'enthousiasme... nous fait parfois écrire des choses qui dépassent un petit peu la réalité. Alors, ce compliment porte en lui-même sa limite, on l'a bien compris. L'histoire de la Réformation, bon, comparée à la Bible, on est là plus dans un espace chrétien, confessionnel, qu'autre chose. Et avec le recul, on s'est aperçu que Merle d'Aubigné a très souvent cédé à la veine apologétique, et surtout, je dirais, et ça c'est une nuance importante, à la veine apologétique partiale, en tordant le sens de certains documents cités hors contexte ou en reconstituant des événements sans documentation de première main. Aujourd'hui, on considère toujours le travail de Merle d'Aubigné comme une œuvre de valeur, mais plus en tant que recherche scientifique, mais comme source, permettant de savoir comment un protestant du XIXe siècle concevait son histoire. Alors, entendons-nous, l'apologétique a tout à fait sa légitimité. Elle a parfaitement sa raison d'être et sa légitimité. Et il y a bien des manières de faire de l'apologétique honnête. Je ne suis pas en train de dire que l'apologétique est forcément malhonnête. Vouloir démontrer la supériorité d'un modèle à partir d'un examen impartial des sources, pourquoi pas ? L'apologétique n'est pas, je le répète, épistémologiquement malhonnête. Le problème vient souvent du fait que l'ambition, a priori, de démontrer une supériorité peut jouer sur la manière dont on traite les sources, avec la tentation de faire un tri, de ne pas accorder la même valeur au document suivant, qu'il est à charge ou à décharge. Et comme disait, disait aussi Max Weber, la tentation d'éliminer l'effet désagréable, hein, qui ne cadre pas avec l'a priori confessionnel qui est le sien au départ de l'analyse. Autre danger aussi de l'apologétique, c'est que le commentaire engagé en vienne à l'emporter sur l'analyse, sans que le lecteur ou l'auditeur sache toujours très bien si on est dans le commentaire engagé ou dans l'analyse. Et on peut assez facilement manipuler un public non averti sur ces bases-là. Et ça peut être assez dangereux. Et on est vite là dans des brèches éthiques, je dirais, hein, dans la pratique professionnelle. Donc il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus. On y reviendra peut-être en table ronde. Alors cette tendance à l'apologétique, à l'histoire sainte, a beaucoup perdu de sa virulence dans la seconde partie du XXe siècle. Le milieu universitaire a mis de puissants garde-fous en prenant son indépendance face aux tentatives hégémoniques des églises. Il y a une laïcisation de la recherche historique, et notamment et en particulier de la recherche historique sur le christianisme, qui est globalement acquise aujourd'hui. Et il est inimaginable, a priori, aujourd'hui, de finaliser sa recherche à la manière, je cite Jean-Marie Mayer, à la manière de ces généalogistes à la recherche de leurs ancêtres spirituels, fortement séduits par la tentation hagiographique. Mais d'une manière subtile, biaisée, cette dérive pointe parfois son nez, et il importe d'être vigilant là-dessus, d'autant plus que l'on se trouve bien souvent impliqué dans le groupe qu'on étudie. En histoire religieuse, que l'on s'intéresse au judaïsme, à l'islam, au christianisme, on s'aperçoit que la plupart du temps, le chercheur, l'historien, est impliqué d'une manière ou de l'autre dans le groupe qu'il étudie. Et donc il y a vraiment là quand même un travail à faire, et on y reviendra dans quelques instants. Alors deuxième type de glissement, l'histoire et la sociologie, science auxiliaire de l'Église. L'histoire et la sociologie, on pourrait rajouter aussi l'anthropologie, et pourquoi pas aussi la politologie et d'autres, sciences auxiliaires de l'Église. La recherche se donnerait pour but d'étudier des terrains de crise, des terrains qui posent problème pour les Églises, afin d'y apporter un éclairage nouveau et de pouvoir résoudre des difficultés posées aux acteurs confessionnels. Alors tout n'est pas condamnable d'un point de vue scientifique dans cette démarche, loin de là. C'est ce qu'on appelle la recherche appliquée. Et ça existe, et cette recherche a tout à fait sa légitimité. Mais elle comporte des risques. Pour illustrer cette tendance, l'itinéraire intellectuel de Gabriel Le Braz est riche d'enseignements. Alors là, je vais un petit peu résumer mon propos, parce que je m'aperçois que l'heure tourne et je ne vais pas arriver à conclure à 4h30. C'est ça, je dois m'arrêter à 4h30. Oui, donc je vais un petit peu résumer mon propos, mais quand même dire deux mots sur l'exemple de Gabriel Le Braz. Gabriel Le Braz, c'est le grand historien du catholicisme dans les années d'après-guerre qui va peser dans le sens d'une déconfessionnalisation de l'approche historique du fait catholique, qui va en particulier militer pour des études sérielles, pour des études quantitatives sur le catholicisme, à commencer par les études de la pratique religieuse. Le problème, c'est que Gabriel Le Braz, dans ses travaux, dans ses enseignements, a par ailleurs mis l'accent sur le fait qu'il y aurait une sorte de sanctuaire inviolable que l'historien n'a pas le droit de pénétrer, dans lequel l'historien n'a pas le droit de pénétrer, et ce sanctuaire, ce serait celui des croyances. En tant que catholique, Gabriel Le Braz s'interdisait
qu'on fasse l'histoire de la croyance. Parce que pour lui, le dogme, on ne peut pas y toucher. On ne peut pas y toucher. Et là, l'historien, il enlève ses chaussures et il reste au pas de la porte. Mais il ne pénètre pas dans le sanctuaire du dogme. Ça, c'était l'approche de Gabriel Le Bras, qui était par ailleurs un catholique très fervent. Alors, on peut concevoir qu'effectivement, Gabriel Le Bras a été un petit peu embarrassé par l'idée que l'historien serait susceptible de démythologiser, peut-être, de contextualiser à l'excès un dogme catholique supposé rester pur. Cela dit, le problème, c'est que quand on évacue une variable aussi importante que les croyances, comment peut-on véritablement aller au bout de l'analyse historique ? Étudier l'histoire du catholicisme au XIXe siècle et au XXe siècle, sans du tout s'intéresser à la contextualisation du dogme, et je pense à Vatican I, etc., enfin, qui sont quand même des étapes très très importantes. Enfin, les derniers grands dogmes catholiques, ils ne sont pas nécessairement tombés du ciel, ils se sont construits dans un certain type de contexte que l'historien est là pour essayer de décrypter. Si on s'interdit ça, on rate quand même une variable importante dans l'analyse du phénomène. Et à l'inverse, les historiens du protestantisme, et je pense notamment à Roger May, en l'occurrence, bon là je ne vais pas vous lire non plus le texte que j'avais prévu de vous lire là-dessus, mais il sera disponible peut-être à la publication. Du côté protestant, on aura un petit peu la tendance inverse. C'est-à-dire qu'on va beaucoup s'intéresser à la construction historique des croyances, parce qu'il n'y a pas de magistère chez les protestants. Il n'y a pas de sanctuaire inviolable. Bon, chez certains, si, mais bon, on est plus à l'aise dans l'analyse socio-historique de la construction des croyances, des confessions de foi, des positions des églises. C'est beaucoup plus facile dans la sphère protestante, et de fait, il y a une très forte avance protestante sur ces sujets-là par rapport à l'historiographie catholique. En revanche, côté protestant, on aura parfois tendance à dire « Ah oui, mais les pratiques... Ça, c'est pas très important. » Et une certaine gêne, en fait, à aborder la question des pratiques. Encore aujourd'hui, pour nos chers amis de l'Église réformée de France, il ne fait pas bon s'intéresser de trop près à la pratique dans les paroisses. « Ah non, mais vous comprenez, on est beaucoup plus gênés. » Alors que le catholique, ça ne le gêne pas. Enfin, quoique, ça le gêne de plus en plus maintenant, parce que les chiffres sont tellement bas. Je ne sais pas, vous avez peut-être vu le sondage IFOP, là, sorti il y a 2 jours, publié par La Croix. C'est très intéressant. Ils ont comparé en fait un sondage IFOP fait juste avant Vatican II aux données aujourd'hui. Donc il y a un sondage qui vient de sortir tout juste, c'est tout frais. Il est téléchargeable gratuitement. Il sera sur mon blog ce soir, si tout va bien. Mais vous le trouverez ailleurs, dans de meilleurs lieux. Et on voit qu'en fait, la pratique régulière aujourd'hui, c'est même pas un Français sur... 5 Français sur 100. Alors que très, très, très longtemps, l'Église catholique a fait de la pratique régulière le critère du catholique. On ne saurait être un vrai catholique si on ne pratique pas régulièrement. Donc les catholiques, longtemps, étaient assez à l'aise dans l'étude des pratiques et pas à l'aise dans l'étude des doctrines. Et les protestants, c'était un peu l'inverse, si vous voulez. C'était un petit peu l'inverse. Sauf que dans un cas comme dans l'autre, finalement, si on se donne d'emblée une œillère, eh bien, on rate une partie des éléments de compréhension. Et c'est ça un petit peu parfois le problème de la recherche appliquée, de la recherche comme supplétive de problématiques strictement confessionnelles. Parfois, dans ces cas-là, on ne trouve finalement rien d'autre que ce qu'on voulait trouver au départ. Or, ça c'est un peu un problème quand même, méthodologique. Quand on ne trouve rien d'autre que ce qu'on voulait trouver au départ, c'est généralement pas bon signe. Parce que le processus même, le processus cognitif de découverte, d'enquête, fait qu'on trouve toujours des choses qu'on n'attendait pas. Et on trouve aussi parfois des choses... on ne trouve pas des choses qu'on pensait trouver. Donc ça marche dans les deux sens. Alors, troisième type de dérive, l'étude du passé, lieu d'élaboration théologique. Alors, c'est un travers qu'on rencontre beaucoup moins aujourd'hui, mais qu'on pouvait rencontrer au début du XXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Et je pense en particulier au mouvement des Deutsche Christen, chez nos amis luthériens, en particulier en Allemagne, qui a cherché, dans l'entre-deux-guerres, à trouver dans l'histoire une seconde source de révélation. et l'idée qu'il y aurait finalement une sorte de téléologie historique, hein, de finalisme dans l'histoire, au service évidemment de telle ou telle approche théologique, de tel ou tel modèle théologique, parfois de tel ou tel modèle confessionnel. Alors, à des degrés beaucoup plus faibles, je dirais que dans une certaine approche franco-française, jusque dans les années 50 en tout cas, on a pu parfois rencontrer certaines interprétations liant beaucoup trop étroitement une certaine conception du progrès républicain, du progrès tout court, et par ailleurs le développement du protestantisme, hein, le protestantisme qui serait une sorte de christianisme nécessairement éclairé, en phase avec le progrès issu des Lumières, l'individualisme, la liberté, et j'en passe. Bon, ceci dit, aujourd'hui, en 2012, soyons clairs, ces tendances-là appartiennent très largement au passé, mais il est bon quand même de les évoquer au passage. Quatrième type de dérive, la recherche comme arme de controverse religieuse. Alors là, on n'est pas nécessairement dans l'apologétique, même si évidemment il peut y avoir une dimension apologétique dans la controverse. Il s'agit plutôt de se servir de la recherche entreprise pour ferrailler contre tel adversaire d'une mémoire religieuse différente. Alors qu'on s'entende bien, la recherche, évidemment, se prête aux controverses. Une fonction importante des travaux universitaires, c'est de stimuler le débat, l'échange, les confrontations sur tous les grands sujets qui occupent la communauté scientifique. Mais la controverse scientifique est une chose, la controverse religieuse en est une autre. Vouloir écrire un mémoire, une thèse, dans le but de régler son compte à un courant religieux, à une tendance, à une mémoire particulière, est une motivation biaisée qui part d'un a priori engagé, orienté dans un sens obsessionnel qui n'est pas compatible avec une bonne problématisation. Je résume. J'en arrive en dernier point à la manière dont il est possible d'éviter, dans sa pratique empirique, les dérives que l'on vient de mentionner, il y en aurait d'ailleurs peut-être d'autres. Comment peut-on pratiquer son métier d'historien, s'approcher le plus près possible de la vérité telle que l'élucidation des événements permet de d'élucider, pour produire un travail historique qui soit conforme à la méthodologie de l'historien telle qu'elle est aujourd'hui partagée dans nos universités. Donc, dernier point, nous allons essayer de délimiter ce qu'on peut appeler l'agnosticisme méthodologique. L'agnosticisme méthodologique. Alors, première tentative de définition d'un bon rapport à l'objet pourrait être de dire qu'il faut s'imposer un détachement total par rapport à ses valeurs propres, hein, ses convictions propres, c'est-à-dire que l'historien chrétien devrait finalement s'arracher à ses convictions chrétiennes pour réaliser un travail digne de ce nom. Alors je vais résumer ce point qui a été défendu en particulier lors d'un congrès mémorable de l'Association française de sociologie par Pierre Bourdieu, hein, Pierre Bourdieu qui a défendu de manière assez provocatrice l'idée selon laquelle le chercheur en sciences sociales, d'une manière générale, doit complètement s'arracher à sa croyance s'il veut tenter de réaliser un travail à peu près objectif, enfin à peu près conforme aux critères de la recherche. S'il veut dire la vérité de son sujet, il doit renoncer à ses convictions, en tout cas dans la pratique de son travail. Et il émet, dans son texte qui serait trop long de citer là, il émet de très sérieux doutes sur la possibilité même pour l'historien chrétien de réaliser un travail scientifiquement honnête sur son objet. Il parle donc de coupure épistémologique et parle même d'une coupure sociale, d'une objectivation douloureuse des attaches et des attachements. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'approche de Bourdieu, et beaucoup de choses très justes. Notamment le fait qu'il importe pour l'historien d'expliciter ses attaches confessionnelles. Il importe pour l'historien qu'il soit conscient qu'il ne part pas du point de vue de Sirius, mais qu'il est marqué par une sédimentation personnelle liée à son histoire propre, liée à ses engagements. Et s'il a un engagement chrétien en particulier et qu'il travaille sur le christianisme, eh bien, il doit être conscient que cet engagement chrétien est susceptible de produire des biais. Alors le problème, c'est que Bourdieu va un peu loin, notamment et en particulier lorsqu'il évoque un nécessaire arrachement, une souffrance obligée, inscrite, je cite, dans la rupture des adhésions et des adhérences. Il va un peu loin et semble surévaluer le biais introduit par la seule conviction chrétienne. En quoi, par exemple, un membre de la CGT, qui écrira plus tard une histoire de la CGT, serait-il moins susceptible d'être marqué par les valeurs qu'il porte qu'un historien chrétien qui travaille sur tel ou tel aspect de l'histoire de l'Église, par exemple? En quoi un historien des milieux universitaires, lui-même universitaire, lui-même imprégné jusqu'au cou dans les réseaux universitaires, dans la novlangue universitaire, en quoi serait-il lui aussi totalement immunisé dans son approche critique de l'objet d'étude universitaire, immunisé donc de son arrière-plan? Et là, je crois qu'il est vraiment important de rappeler que tout historien, tout chercheur en sciences humaines est marqué par un bagage axiologique propre, hein, par des valeurs propres, par une histoire, par des représentations spontanées. Et en quoi le fait d'avoir des convictions religieuses, et en l'occurrence ici des convictions chrétiennes, serait-elle le seul marqueur de vigilance à mettre en avant? Non, le marqueur de vigilance, il est à placer, je dirais, dans tous les cas, y compris d'ailleurs lorsque l'historien se présente comme explicitement athée. Le fait de se présenter explicitement comme athée n'immunise pas plus contre l'erreur d'analyse que le fait de se présenter explicitement comme chrétien. Nous en reparlerons peut-être en table ronde, mais il m'est déjà arrivé en jury de thèse d'entendre tel ou tel collègue se sentir obligé de se dire athée. Mais je ne vois pas en quoi ce genre de précision est utile dans un jury de thèse. Soit chaque chercheur présente à ce moment-là ses attachements, soit il ne le fait pas. Mais il n'y a pas de valeur ajoutée dans l'université laïque française à se présenter comme athée. C'est un arrière-plan convictionnel comme un autre, ni plus ni moins, et qui demande le même type de travail critique sur soi que lorsque l'on est, par exemple, chrétien. Alors, deuxième point, si l'arrachement total à ses convictions personnelles, telles que Pierre Bourdieu semblerait vouloir nous inviter, bon, si cet arrachement total n'est pas tout à fait réaliste et va trop loin, deuxième point, il y a peut-être un bon usage de la sympathie pour l'objet étudié. Et je voudrais renvoyer là un texte déjà ancien de Maurice Goguel, historien du christianisme primitif, qui s'est longtemps illustré à la fois à l'École pratique des hautes études, mais aussi à la faculté de théologie protestante de Paris, et qui écrit la chose suivante. Alors, c'est un texte un peu vieilli, mais qui reste intéressant et qui renvoie à d'autres textes plus récents qu'on aurait pu citer aussi, nous venant en particulier de l'horizon de l'anthropologie. Sauf quand il s'agit de la religion d'un monde qui nous est devenu étranger et qui, n'étant plus un appel pour nos âmes, ne peut être l'objet que d'une curiosité désintéressée, deux positions formelles différentes peuvent être prises à l'égard d'une religion. On peut se placer en dehors d'elle et la prendre pour objet d'étude, d'observation, d'analyse. On s'efforce alors de la comprendre et de la penser, d'en reconnaître la structure, de découvrir les relations qu'elle peut avoir avec l'état matériel, social, moral, politique, du ou des milieux au sein desquels elle est apparue ou s'est développée. D'aucuns pensent qu'une étude ainsi menée aura d'autant plus de valeur que celui qui l'aura faite aura été plus complètement étranger à la religion considérée. Ce serait quelque part un peu le point de vue de Bourdieu. L'autre attitude, poursuit Maurice Goguel, consiste à ne pas se placer en dehors de la religion, mais à la laisser agir sur soi, à se laisser saisir par elle. On vit alors cette religion, et si on la comprend, ce n'est plus du dehors et du dedans. On la perçoit dans sa vie intime et non plus seulement dans sa structure psychologique, théologique ou sociologique. Les deux attitudes, si différentes qu'elles soient, sont solidaires l'une de l'autre. Aucune ne peut être prise à l'état pur, c'est-à-dire à l'exclusion de l'autre. La foi la plus naïve implique une représentation de ses origines, une connaissance de la doctrine, du culte, des institutions par lesquelles cette religion se manifeste. Le plus humble croyant pense sa foi, si rudimentairement que ce soit. Inversement, comment comprendrait-on une religion sans un effort de sympathie qui évoque les pensées, les émotions, les états d'âme qu'elle fait naître chez ses fidèles? L'historien du bouddhisme doit se faire une âme bouddhiste et celui de l'islam une âme musulmane, faute de quoi ils ne saisiront des religions qu'ils étudient que l'extérieur. Fin de citation. Alors certaines formulations ont vieilli, on ne dirait pas les choses forcément de la même manière aujourd'hui, mais ce qui rend cette approche intéressante malgré tout, c'est le plaidoyer pour une certaine sympathie pour l'objet religieux que l'on étudie, une certaine empathie, pourrait-on dire aussi. Du point de vue de l'anthropologie, on pourrait parler aussi tout simplement de la méthodologie de l'observation participante. L'observation participante, c'est précisément une observation impliquée, participante. On n'est pas, encore une fois, sur Sirius. L'observation participante, c'est chanter avec ceux qui chantent, c'est même, à la limite, prier avec ceux qui prient. C'est s'impliquer dans le groupe que l'on étudie. Et beaucoup d'anthropologues, d'ailleurs, ne sortent pas indemnes après 2, 3, 5, 10 mois de terrain dans les milieux étudiés, y compris, d'ailleurs, dans les églises évangéliques étudiées. Donc il ne s'agit plus ici d'un arrachement douloureux à toute forme de lien, comme semble un peu le souhaiter Bourdieu, mais au contraire, l'interrelation assumée, analysée, contrôlée, de deux niveaux qui peuvent parfaitement se tolérer l'un l'autre à partir du moment où on sait les faire jouer comme il faut. Alors, on aurait pu citer dans le même ordre d'idées des remarques pertinentes d'Henri-Irénée Maroux dans l'ouvrage « De la connaissance historique » où il plaide à la fois pour une élucidation nécessaire des motivations, des curiosités de l'historien, ce qu'il appelle une psychanalyse existentielle, et pour une affinité personnelle avec le sujet. Et je le cite, « Le terme de sympathie est même insuffisant ici. Entre l'historien et son objet, c'est une amitié qui doit se nouer si l'historien veut comprendre, être au plus près de la vérité des faits tels qu'ils se donnent à l'analyse. » Alors, on le comprend, je l'espère, un bon rapport à l'objet peut donc s'accommoder du fait que le chercheur, tout en appartenant au champ scientifique, appartienne aussi, d'une manière ou l'autre, au champ religieux qu'il étudie. Par exemple, un historien chrétien, croyant, qui par ailleurs va étudier tel ou tel objet de l'histoire du christianisme. Bien plus, cette double appartenance peut même s'avérer une aide pour une meilleure compréhension, plus en profondeur, de l'objet étudié. Mais il faut se garder sur ce terrain de toute complaisance, et ce serait une grave erreur de réserver l'étude socio-historique de la religion, de la croyance, à ceux qui la partagent, au nom d'une indispensable sympathie participante. Cette appartenance du chercheur à l'univers qu'il étudie n'est pas nécessaire. Ne tombons pas dans l'excès inverse de celui de Bourdieu. Et cette appartenance ne constitue un relatif avantage qu'à condition de bien hiérarchiser les niveaux, de savoir mettre en œuvre un agnosticisme méthodologique rigoureux. Et je terminerai par là. Alors cet agnosticisme accepte une forme de relation ou de sympathie entre le chercheur et l'objet étudié, en se doublant d'une pleine rigueur critique dans la conduite du travail. Et c'est une double appartenance qui peut faciliter parfois la distanciation vis-à-vis des partis pris. Et là, je citerai Antoine Pro, dans ses 12 leçons sur l'histoire. Les historiens non engagés, qui se prétendent de purs scientifiques, sont peut-être les plus menacés de manquer de lucidité sur leur propre parti pris. Très important, je répète. Les historiens non engagés, qui se prétendent de purs scientifiques, sont peut-être les plus menacés de manquer de lucidité sur leur propre parti pris, car ils ne ressentent pas la même nécessité de se dire à eux-mêmes quelle motivation les pousse, quelle motivation ou quel système de valeurs, si on veut. Fin de citation. Alors la foi n'est certes pas nécessaire à l'historien du christianisme, elle peut le servir comme le desservir, mais dans tous les cas de figure, la posture historienne ou sociologique part toujours d'un point de vue qu'il convient de prendre en compte avec lucidité critique. Girard Cholvy n'affirme pas autre chose quand il rappelle, je cite, « qu'aucun chercheur n'est neutre, sauf à l'ignorer lui-même, sacrifiant peut-être à l'illusion positiviste ». Ça ne veut pas dire à l'inverse que tout est question de point de vue, mais aucun chercheur n'est parfaitement neutre du point de vue des valeurs, ce qui impose d'élucider ses motivations, de se livrer à une, alors on peut appeler ça comme on veut, hein, psychanalyse existentielle, socianalyse, un travail d'explicitation des postulats, une démarche de distanciation critique que Jean Bobéro qualifie, dans « Vers un nouveau pacte laïque », entre autres, hein, de méthodologiquement agnostique. Alors je le cite, et j'ai presque fini. « En tant que discipline d'ordre scientifique, l'histoire, la sociologie doivent se tenir à distance de tout discours militant, même quand le chercheur sympathise avec la cause qu'il étudie. Dans le jargon universitaire, nous parlons d'adopter une attitude méthodologiquement agnostique, de suspendre nos jugements de valeur. Certains répliqueront immédiatement qu'une telle attitude est illusoire, car l'objectivité ne saurait être absolue. Mais il ne faut pas confondre relativité et inexistence. Que dirait-on d'un PDG qui, cigare aux lèvres, expliquerait doctement à un smicard que la richesse absolue n'existant pas, il serait faux de parler de riches et de pauvres ? Sources, instruments de travail, méthodes permettent à Claude Nicolet, Émile Poulat, Jean-Marie Meyer et moi-même, dit Jean Bobéro, d'écrire la même histoire, tout en gardant chacun une sensibilité et des références diverses. Car cette distance n'est en rien un retrait de la vie sociale. Au contraire, il est possible de réécrire aujourd'hui ce qu'affirmait déjà Durkheim en 1893, nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger les premiers, c'est au contraire pour nous permettre de mieux les résoudre. » Fin de citation. Alors, en peu de mots, Jean Bobéro donne ici les contours de cette position d'agnosticisme méthodologique qui doit être de rigueur en histoire et en sociologie, quand on travaille sur l'objet religieux et d'ailleurs sur n'importe quel autre objet. Elle n'exclut pas la sympathie pour l'objet d'étude, mais doit refuser tout discours militant et suspendre tout jugement de valeur. Alors bien sûr, l'objectivité absolue, on l'a vu, ne peut être atteinte, mais ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de possibilité d'une objectivité relative ou d'une impartialité, comme le revendique Antoine Pro, laquelle est le seul horizon scientifique réaliste pour le chercheur. Alors, je terminerai par ce rappel en conclusion. L'agnosticisme méthodologique, c'est une mise à distance dans la recherche entreprise, dans ce travail de mise en lumière de la vérité des faits à partir des sources primaires, ce travail de mise à distance des partis pris, des a priori axiologiques, confessionnels, mise à distance conquise au terme d'un effort d'élucidation des motivations profondes du chercheur. Ça n'exclut pas la sympathie, mais cela impose la rigueur critique au service d'un seul but qui est de comprendre les faits. Comprendre les faits. Alors cette mise entre parenthèses qui est facilitée par la rigueur de la démarche scientifique générale, alors je ne suis pas revenu en détail sur cette démarche elle-même, mais je pense que nous la connaissons tous ici, hein, que comment travaille l'historien. Cette mise entre parenthèses peut se manifester de plusieurs façons. On peut choisir d'expliciter d'entrée de jeu dans sa recherche son rapport personnel à l'objet étudié, ou en tous les cas, prendre la peine pour soi-même de s'introspecter, les deux démarches ayant pour même but de parvenir, et là je cite Régine Robin, à une énonciation distanciée qui donne toute sa liberté et son impartialité à la recherche, dans le seul but, qu'on soit chrétien ou pas, d'approcher au plus près la vérité des faits à partir d'une enquête sur source. Je vous remercie.